Vous écoutez, on lit pour vous.
Glyphosate, l'indignation sélective. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 18 décembre 2025 dans La Presse. La rétractation d'un article qui date d'un quart de siècle sur l'innocuité du glyphosate pour la santé humaine ne renverse pas un consensus scientifique. Elle révèle surtout l'indignation sélective de notre époque. Le mouvement anti-OGM reprend du service en brandissant un scandale qui n'en est pas vraiment un. La récente rétractation d'un article publié en 2000, il y a 25 ans, concluant que le glyphosate n'est pas nuisible à la santé humaine, a ravivé un débat que plusieurs croyaient réglé depuis longtemps. Publié dans Regulatory Toxicology and Pharmacology, son contenu avait été abondamment cité au fil des ans, plus de 700 fois, et utilisé dans certains exercices d'évaluation réglementaire, notamment lors de la réévaluation de Santé Canada en 2017. Selon l'avis de rétractation, les conclusions de l'étude reposaient en grande partie sur des données non publiées provenant de Monsanto, depuis rachetées par Bayer, sans que l'ampleur de l'implication de l'entreprise soit clairement divulguée. Des préoccupations ont également été soulevées quant à de possibles manquements éthiques, à des contributions non déclarées de membres du personnel de l'entreprise et à des questions de compensation financière. Mais les informations entourant cette rétractation ne disent pas tout. Il convient de replacer cet épisode dans son juste contexte scientifique et économique. Cette publication n'a jamais constitué à elle seule la pierre angulaire des décisions réglementaires sur le glyphosate, ni au Canada, ni ailleurs. Les agences publiques fondent leurs évaluations sur des ensembles de données beaucoup plus vastes, incluant des centaines d'études toxicologiques et épidémiologiques. Santé Canada l'a d'ailleurs clairement indiqué. Cette rétractation ne remet pas en cause ces évaluations antérieures. Les appels de certains groupes environnementaux à une révision complète relèvent davantage d'une dynamique politique que d'un impératif scientifique ou économique. En matière de politiques alimentaires et agricoles, il demeure essentiel de distinguer entre la correction légitime d'un article ancien et marginal et la solidité globale d'un cadre réglementaire reposant sur un recueil de preuves beaucoup plus large. L'ampleur médiatique accordée à cette rétractation dépasse largement sa portée réelle. Il faut rappeler le statut secondaire de la revue concernée dans l'écosystème scientifique. Regulatory Toxicology and Pharmacology n'est ni une revue de référence en santé publique, ni une publication centrale dans l'évaluation des risques réglementaires. Son facteur d'impact, indicateur de la visibilité d'une revue scientifique, autour de 3,5, bien que respectable, reste modeste et certainement peu élevé dans le champ de la recherche en santé publique. L'article en question n'a jamais constitué une référence déterminante de la toxicologie moderne ni une base décisive pour les décisions réglementaires. Les agences comme Santé Canada, le FSA ou l'EPA ne fondent jamais leurs conclusions sur une seule publication, encore moins sur un article ancien dont la méthodologie datait déjà au moment de sa parution. Il faut également souligner le contexte humain de cette rétractation tardive. Deux des auteurs aujourd'hui décédés ne peuvent répondre aux accusations ni clarifier les choix méthodologiques faits il y a un quart de siècle. Le troisième auteur n'a jamais réagi. Cela pose un problème fondamental d'équité intellectuelle. De plus, la nature même de l'étude, une revue interprétative de données existantes et non une expérimentation originale ou une étude épidémiologique importante, limite fortement sa valeur scientifique intrinsèque. Présenter cette rétractation comme un tournant marquant ou une déclaration majeure relève davantage du sensationnalisme que de l'analyse rigoureuse. En science comme en économie alimentaire, seuls les inventaires complets de preuves réévaluées en continu comptent, et non la relecture morale et rétroactive d'un article périphérique publié 25 ans auparavant. Alors, calmons-nous le pompon. Pendant ce temps, d'autres études aux conclusions alarmistes sur l'environnement et les changements climatiques sont rétractées dans un quasi-silence médiatique. Un exemple récent? Un article publié dans la prestigieuse revue Nature, dont le facteur d'impact frôle les 50 et qui est cité des centaines de fois par an par des institutions influentes, a été retiré après que la fiabilité des données eût été remise en question. L'article intitulé « The Economic Commitment of Climate Change » a été rétracté le 3 décembre 2025. Mais personne ne parle de cet article. Où sont les indignés du climat? C'était Glyphosate, l'indignation sélective, un texte de Sylvain Charlebois, paru le 18 décembre 2025 dans La Presse.
En ligne ou en magasin, les meilleures décisions à prendre pour ses achats, un texte de Valérie Simard, paru le 12 décembre 2025 dans La Presse. On décrit l'achat sur l'Internet avec les Amazones de ce monde, mais je me demande après tout si l'empreinte écologique de ce que l'on y achète est pire que l'achat dans un magasin local, demande Marc Pilon. En supposant que l'on achète le même produit, quelle est la différence? De nombreuses études se sont penchées sur cette question sans toutefois offrir de réponse simple. Les conclusions divergent, puisque les contextes étudiés divergent, constatent les chercheuses de l'Université Gustave Eiffel qui ont analysé des études comparant l'empreinte carbone des achats en ligne et en magasin. Elle conclut que les achats en ligne ont généralement une empreinte carbone inférieure à celle des achats en magasin, mais uniquement dans le cas de modes de vie dépendants de la voiture, et peut-être uniquement parce que les études négligent largement les transformations du comportement des consommateurs. Au magasin sans voiture. Ainsi, plusieurs facteurs sont à considérer, et les décisions des détaillants, entreprises de livraison et consommateurs, peuvent faire bouger l'aiguille. Dans une série de simulations, des chercheurs du MIT ont démontré que, par exemple, se rendre au magasin à pied, à vélo ou en voiture électrique rend un achat en personne plus avantageux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas si on s'y rend en voiture à essence. La distance à parcourir est fondamentale. Si j'habite à côté du magasin, mes émissions pour l'aller-retour ne sont pas très grandes. Note Julie Paquette, professeure à HEC Montréal et directrice du Carrefour Logistique. Pour la livraison, si le magasin est capable de mettre ensemble les commandes de plusieurs clients dans la même portion de la ville, ça va peut-être valoir la peine. C'est ce qu'on appelle la densité de livraison. La notion du dernier kilomètre, soit l'étape ultime du parcours entre le centre de distribution et le client ou entre le magasin et le client, est importante, puisque c'est celle qui génère le plus d'émissions, souligne Mme Paquette. Du centre de distribution au magasin, la marchandise est regroupée dans de gros camions. Lorsqu'elle est commandée en ligne et expédiée d'un centre de distribution lointain, l'empreinte carbone grimpe puisque l'envoi est personnalisé. Dans ce cas, visiter un magasin près de chez soi peut être un meilleur choix, surtout si l'envoi provient de l'étranger, comme c'est le cas pour Shine et Temu. Dans le cas d'Amazon, la marchandise ne provient pas d'aussi loin, mais depuis la fermeture des entrepôts et des centres de distribution situés en territoire québécois, les paquets sont désormais expédiés d'autres installations au Canada, nous a indiqué l'entreprise. La provenance du colis est une information qui est peu accessible aux consommateurs. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui mettent ça de l'avant, constate Julie Paquette. Faire livrer son paquet dans un point de chute peut être avantageux, mais seulement si on peut s'y rendre à pied ou à vélo, ou s'il se trouve sur notre route. Patienter. Qui voudrait attendre une semaine pour la réception d'un chandail quand on peut le recevoir en moins de 24 heures? Surtout quand il reste 13 jours avant Noël. La livraison rapide, c'est la pire des options parce que le transporteur n'a aucun moyen d'optimiser sa route de transport, indique Julie Paquette. Il va faire un aller-retour avec un plus grand véhicule que si on y allait avec notre propre voiture. Aussi, lorsque la marchandise vient d'outre-mer, des délais de livraison courts signifient qu'elle voyagera en avion. Regrouper ses achats. Tant en ligne qu'en magasin, regrouper ses achats pour minimiser les déplacements et les emballages dans le cas des livraisons est un choix judicieux. En ligne, on n'est toutefois pas à l'abri de la mauvaise surprise de voir nos achats commandés simultanément, envoyés séparément. Opter pour une livraison éco-responsable. Ces dernières années, l'électrification s'est taillée une place dans le dernier kilomètre. L'information n'est souvent pas offerte lors de l'achat, mais certaines entreprises la mettent de l'avant. À Montréal et à Québec, Coop Carbone exploite de petits centres de distribution urbaine qui facilitent le transbordement des marchandises vers des vélos cargo. Dans un livre blanc qu'elle vient tout juste de publier, ayant pour thème « Réinventer le dernier kilomètre », Coop Carbone soutient que la cyclo-logistique, la livraison urbaine à vélo, permet de réduire la pollution et les émissions, la congestion, l'usure des routes, le bruit et les accidents liés à l'augmentation des camions de livraison dans les villes. Enfin, éviter autant que possible les retours et la surconsommation et s'assurer d'être présent lors d'une livraison exigeant une signature sont aussi de bonnes résolutions à adopter pour vos commandes en 2026. C'était, en ligne ou en magasin, les meilleures décisions à prendre pour ses achats, un texte de Valérie Simard, paru le 12 décembre 2025 dans La Presse.
Là où l'espoir s'est discrètement installé. Extrait. Un texte de François-William Croteau, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. Une nouvelle année sous le signe de la continuité? L'an 2026 débute exactement là où l'incertitude, l'inquiétude et l'installation de nouvelles réalités nous ont laissés. On entame habituellement cette nouvelle étape avec de l'espoir et des résolutions, en souhaitant terminer l'année sous de meilleurs auspices. Or, tout indique que, cette fois, il faudra allumer plusieurs lampions si nous voulons que nos souhaits se réalisent. 2025 a été une année de bascule. Les événements se sont enchaînés à une vitesse folle, ébranlant ce que nous pensions stable ou acquis. Le monde s'est retrouvé sans dessus-dessous, sans véritable pause pour reprendre son souffle. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir la fragilité émotionnelle gagner du terrain et les repères collectifs s'effriter. Ce contraste entre un moment suspendu et notre quotidien accéléré m'a frappé. Comme si, à force de crises successives, le sens du collectif s'était lentement délité pour faire place à une fragmentation qui alimente l'inquiétude et le repli. Plus les États sont soumis à des pressions multiples, plus ils tendent à se replier sur eux-mêmes. Les solidarités d'hier, laisse place à une résurgence de réflexes nationalistes et impérialistes que l'actualité récente rend difficile à ignorer. Ces replis alimentent les tensions, accentuent l'insécurité et contribuent au climat d'inquiétude généralisé. Dans un tel contexte, l'individu postmoderne n'échappe pas à la logique ambiante. Pour se protéger émotionnellement de l'avalanche de crises et de mauvaises nouvelles, il se replie, lui aussi. Et ce faisant, le collectif encaisse un coup. En début d'année, il faut pourtant s'accrocher à ce qui permet encore de croire que 2026 pourrait se déployer autrement. Pendant que les États sont absorbés par les crises économiques, migratoires et géopolitiques et qu'ils se replient sur eux-mêmes, plusieurs enjeux fondamentaux sont relégués à l'arrière-plan. La crise climatique en est l'exemple le plus frappant. Comme si, en 2025, l'humanité avait collectivement décidé de détourner le regard. Pourtant, ces effets sont bien réels et se rappellent à nous chaque jour, à l'épicerie ainsi que dans nos taxes, nos primes d'assurance et la multiplication des événements extrêmes. Or, pendant que les États peinent à répondre à l'ampleur de ces bouleversements, les gouvernements de proximité ont amorcé un mouvement inverse. En première ligne des effets concrets, les municipalités ont choisi la coopération plutôt que l'isolement. Face aux crises du logement et de l'itinérance, devant la désuétude des infrastructures, les tempêtes plus violentes et les pressions budgétaires constantes, elles ont commencé à mutualiser leurs idées, leurs pratiques et leurs capacités limitées. Là où le collectif semblait s'effriter à grande échelle, il a discrètement trouvé refuge à l'échelle locale. C'est précisément là que se révèle toute la légitimité du rôle désormais assumé par les villes comme gouvernement de proximité. Prendre soin du collectif, assurer une cohésion sociale, environnementale et économique minimale et maintenir des services essentiels de qualité sont devenus des responsabilités centrales de l'action municipale. Rien n'est parfait et les défis demeurent immenses. Mais l'année 2025 aura laissé une trace claire. Celle d'un monde municipal qui s'organise, qui collabore et qui reconnaît ne plus pouvoir agir seul. L'alliance Fournier-Boyer en est une illustration concrète, notamment la volonté de la mairesse de Longueuil et du maire de Laval de lancer des appels d'offres communs afin de freiner la hausse des coûts d'infrastructure. Ce geste s'inscrit dans un mouvement plus large, amorcé il y a plusieurs années au sein duquel les villes cherchent à faire front commun face à l'accumulation des crises. Dans un monde traversé par les replis, les crispations et l'érosion du collectif, un espoir s'est discrètement installé là où on ne l'attendait plus vraiment, dans ce niveau de gouvernance souvent sous-estimé, mais désormais au front de toutes les crises. Les gouvernements de proximité ont compris que leur rôle ne se limite plus à gérer le quotidien, mais à reconstruire du lien, de la confiance, et un minimum de solidarité là où les autres ordres de gouvernement peinent à agir. Ce n'est ni spectaculaire ni révolutionnaire. C'est lent, imparfait, parfois ingrat. Mais c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin pour traverser ce qui vient. En 2026, l'espoir ne viendra pas d'en haut. Il va se construire patiemment, à hauteur humaine. C'était là où l'espoir s'est discrètement installé. Extrait. Un texte de François-William Croteau, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.
Lutter contre l'intimidation en français. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, publié le 3 décembre 2025 dans Le Franco. L'organisme québécois Ensemble, pour le respect de la diversité, était de passage à Edmonton cette semaine à l'invitation du Carrefour du savoir pour entrepreneuriat 2ELGBTQ1+, pour aborder l'inclusion et le respect en milieu scolaire, à un moment où les cas d'intimidation et de discrimination semblent en hausse partout au pays. Citation. L'objectif, c'était vraiment d'établir un premier contact, rencontrer les organismes communautaires et le réseau scolaire pour créer des liens. On aimerait offrir nos ateliers en Alberta dans les écoles francophones, explique le directeur général Raphaël Provost. Chaque année, l'organisme rejoint plus de 36 000 jeunes au Canada grâce à ses ateliers de sensibilisation. Et d'après les observations de M. Provost, une haine décomplexée semble gagner du terrain. Citation, « C'est généralisé. On observe une montée des propos contre les personnes LGBTQ+, mais aussi une hausse du racisme et même du sexisme en raison des mouvements masculinistes », note-t-il, fin de citation. Pour freiner ces courants et prévenir leur propagation, la prévention en milieu scolaire est essentielle, insiste-t-il. Mais l'accès à des programmes en français demeure limité en contexte minoritaire. Citation, « Nous, on peut offrir ces services. On sait que les besoins sont importants et qu'il y a vraiment un manque de ressources », dit-il, fin de citation. C'est généralisé. On observe une montée des propos contre les personnes LGBTQ+, mais aussi une hausse du racisme et même du sexisme en raison des mouvements masculinistes. C'est généralisé. On observe une montée des propos contre les personnes LGBTQ+, mais aussi une hausse du racisme et même du sexisme en raison des mouvements masculinistes. Raphaël Provost. En Alberta, Dare to Care propose déjà ce type d'intervention dans les écoles, en présentiel comme en virtuel. Toutefois, l'organisme n'offre pas encore de service en français, précise son directeur général Mathieu Constantin, lui-même francophone. Citation, « Nous sommes justement en train d'évaluer et de traduire l'ensemble de nos programmes qui sont actuellement offerts uniquement en anglais. Nous venons d'embaucher une autre personne qui parle français pour nous aider dans cette démarche afin de pouvoir desservir les écoles francophones partout au pays. Ce ne sera pas prêt demain matin, mais la traduction de nos programmes fait partie de nos priorités », souligne-t-il, fin de citation. Il estime lui aussi que les cas d'intimidation, surtout ceux de cyber-intimidation, sont en hausse dans la province. Le phénomène de sextorsion, où une personne menace de diffuser des images intimes, est aussi en augmentation. Citation, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes apprennent maintenant des comportements en ligne et les reproduisent. Leurs influences ne sont plus juste de la maison, mais de tout ce qu'ils voient sur Instagram, Snapchat et TikTok, explique-t-il, fin de citation. Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes apprennent maintenant des comportements en ligne et les reproduisent. Mathieu Constantin. C'était un exergue. Répondre à une intimidation qui se transforme. Dans son approche, Dare to Care mise sur le développement des habiletés de la majorité bienveillante. Ces élèves témoignent d'actes d'intimidation qui restent souvent silencieux. Citation, dans 80 à 85% des cas, l'intimidateur agit devant quelqu'un. Il faut mobiliser celles et ceux qui n'interviennent pas, leur donner confiance pour qu'ils prennent la parole. Ce sont eux qui ont le plus grand pouvoir. Et ça passe par la prévention. L'intervention au cas par cas ne change pas durablement les comportements, explique Mathieu Constantin, fin de citation. L'organisme Ensemble pour le respect de la diversité adopte une approche similaire. Selon Raphaël Provost, la meilleure méthode d'intervention consiste à laisser les jeunes passer à l'action eux-mêmes pour lutter contre l'intimidation. Citation, on met en place dans les écoles et les milieux jeunesse des comités par et pour les jeunes. Ça a un immense impact, partage-t-il, fin de citation. Ces comités mènent des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, organisent des collectes de fonds et réalisent des capsules éducatives sur divers sujets, dont les micro-agressions. Cette volonté de responsabiliser les témoins et d'impliquer les jeunes rejoint les constats des chercheurs qui observent de près les tendances en matière d'intimidation au pays. Lienera Exner-Cortens, professeure agrégée à l'Université de Calgary et co-directrice scientifique de PrevNet, PREVNET, organisme national voué à la prévention de la violence interpersonnelle chez les jeunes, insiste sur le fait que l'intimidation est d'abord un problème relationnel. Citation : On ne peut pas se concentrer seulement sur l'enfant qui est intimidé ou sur celui qui intimide. Dans la grande majorité des cas, d'autres jeunes sont témoins et il faut les outiller pour qu'ils se sentent capables d'intervenir et de dire que ce n'est pas acceptable, explique-t-elle, fin de citation. Un exergue. On ne peut pas se concentrer seulement sur l'enfant qui est intimidé ou celui qui intimide, dit Enira Exner. Activer la majorité silencieuse, selon elle, la prévention passe d'abord par l'apprentissage de compétences sociales, la gestion des conflits, l'empathie et la bienveillance au primaire, puis une réflexion plus poussée au secondaire sur les dynamiques d'intimidation, les identités ciblées et la manière de devenir des défenseurs plutôt que des témoins passifs. Mais comme l'intimidation repose sur un rapport de pouvoir, les adultes doivent eux aussi être prêts à intervenir. Les enseignants peuvent, d'ailleurs, agir de différentes façons pour protéger les élèves vulnérables. Citation, par exemple, ils devraient éviter de laisser les élèves former eux-mêmes leur groupe. Dès qu'on laisse les jeunes choisir, certains se retrouvent exclus. Fin de citation. Si les écoles et les organismes jouent un rôle essentiel, Mme Exner-Cortens rappelle aussi que la prévention ne peut pas reposer uniquement sur le milieu scolaire. Citation, les interventions en milieu scolaire sont essentielles, mais ce ne peut pas être la seule solution. On a aussi besoin d'initiatives dans le système de santé et dans les communautés parce que certains jeunes échappent complètement au cadre scolaire. Fin de citation. La professeure Exner-Cortens rappelle que cette vigilance est d'autant plus nécessaire que le climat social actuel risque d'exposer davantage certains élèves. Citation, « Je suis vraiment inquiète pour les jeunes trans. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient chez les adultes. Si on leur envoie le message que ces jeunes-là ont quelque chose de pas normal, ils vont intégrer ça et les cibler », conclut-elle, fin de citation. La semaine de sensibilisation à l'intimidation se déroulait du 17 au 21 novembre 2025. C'était « Lutter contre l'intimidation » en français, un texte de Gabriel Audet-Michaud, publié le 3 décembre 2025 dans Le Franco.